Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouamadou Oumfa, pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 24 avril 2023. Il est 19h30 temps universel. Voici le sommaire. Au Soudan, des pays étrangers évacuent leurs ressortissants alors que les combats font rage entre militaires et paramilitaires. Au Sénégal, Idriss Aseck démis de son poste de président du Conseil économique, social et environnemental 10 jours après l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2024. En Éthiopie, ouverture mardi de négociations de paix entre le gouvernement fédéral et un groupe rebelle Oromo. Au Kenya, le chef d'une secte a été arrêté après la mort de plus de 70 fidèles à qui il avait demandé de jeûner pour rencontrer Jésus. Dans une dizaine de minutes, la Minute Éco, la compagnie kenyane d'électricité Kekrako, sensibilise sur une nouvelle loi qui vise à accroître les investissements privés dans le secteur énergétique et les sports, avec la Guinée qui rafle 2 trophées à un tournoi africain de handball. Pour commencer, le journal. Explosions, raids aériens et tirs se poursuivent à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan au 10e jour de combat entre militaires et paramilitaires. Dans ce contexte d'incertitude, plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants. Les derniers développements avec Alexandrine Ollognon.
Les violences au Soudan risquent d'envahir toute la région et au-delà. A mis en garde lundi Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, réclamant une nouvelle fois un cessez-le-feu pour éloigner le Soudan du précipice. Soyons clairs, les Nations Unies ne quittent pas le Soudan, a-t-il insisté, précisant qu'il a autorisé la relocalisation temporaire à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan de certains agents de l'ONU. Le Royaume-Uni a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le sujet, qui devrait avoir lieu demain mardi. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués, selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le Tchad, qui accueille 20 000 réfugiés soudanais, a fait évacuer plus de 400 de ses ressortissants. L'Afrique du Sud a évacué des dizaines et le Nigeria prévoit d'évacuer près de 3 000 ressortissants, en majorité des étudiants. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l'Ouest, ont fait plus de 420 morts et 3 700 blessés.
Plus de 20 migrants clandestins sont portés disparus au large de l'Italie, a indiqué ce lundi le ACR, alors que le beau temps a provoqué de nouvelles tentatives de traversée de la Méditerranée. 2 naufrages au large de Lampedusa et 22 disparus. Condoléances à ceux qui ont perdu des membres de leur famille en mer, a écrit sur Twitter Chiara Cardoletti, une représentante du ACR. Les 36 survivants du premier naufrage ont affirmé aux gardes-côtes italiens que 19 personnes à bord de leur bateau étaient mortes après avoir chaviré, selon un attaché de presse du ACR. 3 autres personnes seraient mortes dans un deuxième incident, selon la même source. Les personnes sauvées étaient originaires du Burkina Faso, du Cameroun, de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Soudan et avaient payé entre 500 et 600 euros pour la traversée, selon le quotidien La Stampa. Le président sénégalais Macky Sall a officialisé ce lundi sa rupture avec un de ses principaux alliés dans la coalition au pouvoir, l'ex-premier ministre Idriss Aseck, qui a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 à 10 mois de ce scrutin. Le président Sall a mis fin aux fonctions de M. Aseck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, selon un communiqué du secrétaire général de la présidence, Oumar Sambaba. M. Aseck a été remplacé par un ancien ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui était directeur de cabinet du président Sall. Le communiqué annonce également le limogeage de 2 ministres, membres du parti de M. Aseck, le ministre des Sports Yankoba Diatara et celui de l'élevage et des productions animales Ali Salé Diop. Au Kenya, la police a exhumé dimanche 26 nouveaux corps dans l'est du pays. Ce chiffre porte à plus de 70 dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte religieuse, Nani Talani.
La plupart des corps ont été retrouvés dans des fosses communes dans la forêt de Chakaula, de l'est du Kenya. Nous avons extrait 73 corps de la forêt ce soir et l'opération se poursuivra demain, a déclaré un officier de police. Les morts sont soupçonnés d'être des adeptes d'une église qui croyait qu'ils iraient au paradis s'ils mouraient de faim, a déclaré Charles Kamau, chef des enquêtes criminelles. D'après la police, 8 personnes ont été retrouvées vivantes et émaciées, mais sont décédées plus tard. 29 survivants ont été secourus. Le chef de la secte, Mackenzie Ntege, un chauffeur de taxi devenu pasteur, a été placé en détention et inculpé mi-avril, car des enfants sont morts de faim sous la garde de leurs parents. Selon des médias locaux, il a été libéré moyennant une caution d'environ 670 euros. La justice doit examiner l'affaire le 2 mai. Le président kényan, William Ruto, a promis des mesures contre les cultes terroristes qui utilisent la religion.
En RDC, plusieurs dizaines d'élèves ont été blessés ce lundi en sautant d'un toit pour échapper à un incendie qui a ravagé le lycée pour filles de Mwanga dans la province de Lualaba. Selon des témoins, le feu d'origine encore inconnue s'est déclaré vers 9h, heure locale, 8h GMT, partant de l'internat de l'établissement avant de ravager les bâtiments des écoles primaires et secondaires. Pour échapper à cette fournaise, les élèves ont sauté du toit de l'immeuble, haut de 3 mètres, a raconté un témoin. Plusieurs d'entre elles se sont fracturées des membres, a-t-il ajouté. Au moins 97 élèves ont été hospitalisés, selon un responsable du gouvernement provincial du Lualaba, qui a ajouté qu'aucun cas de décès n'a été enregistré. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé l'ouverture demain mardi de négociations de paix avec l'OLA, groupe rebelle actif dans l'Oromia. C'est la région la plus vaste et la plus peuplée du pays. Yacouba Ouédraogo.
Des négociations de paix avec l'armée de libération Oromo vont commencer mardi en Tanzanie, a déclaré le premier ministre Abiy Ahmed. Dans un communiqué, l'OLA a affirmé que le régime éthiopien a accepté ses conditions pour des négociations de paix dont la participation d'une tierce partie indépendante en tant que médiatrice et un engagement de maintenir la transparence tout au long du processus. Ni Abiy Ahmed ni l'OLA ne précisent qui sera ce médiateur et dans quelle ville se tiendront les pourparlers et sous quel format. L'OLA combat le gouvernement fédéral depuis qu'elle a fait scission en 2018 avec le Front de Libération Oromo qui a renoncé à la lutte armée. La situation en région Oromia comprend lutte politique interne à la région, litiges territoriaux et animosité entre communautés. L'OLA a été à plusieurs reprises accusée par le gouvernement de M. Abiy Ahmed d'être responsable de ces massacres, ce qu'elle a toujours rejeté.
L'armée malienne a affirmé ce lundi avoir mené une opération dans la région de Ménaka, dans le nord-est, où les djihadistes du groupe État islamique ont étendu leur contrôle. 12 terroristes ont été interpellés et du matériel a été saisi dimanche, a assuré dans un communiqué l'armée en assurant que la situation sécuritaire dans l'ensemble des secteurs reconnus reste calme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a inauguré ce lundi sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU par une réunion sur la défense des principes de la charte de l'organisation. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé devant le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui préside la session, la dévastation de l'Ukraine provoquée par l'invasion russe en violation du droit international, selon lui, Jean-Roger Billon.
La Russie a su en avril la présidence du Conseil de sécurité et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait le déplacement pour présider cette réunion. Dans la note de cadrage envoyée aux États membres sur cette réunion, la Russie dénonce l'ordre mondial unipolaire qui s'est installé après la fin de la guerre froide, menaçant l'efficacité et la stabilité du système des Nations Unies. Mais devant le chef de la diplomatie russe, le patron de l'ONU a dénoncé la dévastation due à l'invasion de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international provoque une souffrance massive et la dévastation du pays et de sa population, a déclaré Antonio Guterres devant Sergueï Lavrov. Le système multilatéral est sous une tension plus grande qu'à aucun autre moment depuis la création des Nations Unies, a alerté Antonio Guterres, soulignant les tensions au plus haut entre les grandes puissances.
Les Comores ont déclaré ce lundi avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte, où les autorités françaises ont annoncé une opération controversée contre l'immigration illégale et suspendu le trafic de passagers dans le port où les expulsés comoriens sont habituellement débarqués. Tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous contrôle comorien, a déclaré le ministre comorien de l'Intérieur. La France prévoit de déloger des migrants illégaux des bidonvilles du département français de Mayotte dans l'océan Indien et d'expulser les Comoriens présents illégalement sur le territoire vers l'île comorienne la plus proche en juin, située à seulement 70 km. Près de 3000 soldats de 19 pays participeront en mer et sur terre jusqu'au 6 mai en Nouvelle-Calédonie, archipel français du Pacifique Sud, à un exercice militaire nommé Croix du Sud. Des unités venues des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais aussi des Fidji voisines vont participer pendant 15 jours à cet exercice militaire dont la dernière édition remonte à 2018. L'exercice qui simule une intervention humanitaire consécutive à une catastrophe naturelle de grande ampleur mobilisera 10 navires et une quinzaine d'aéronefs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, la centrale Singrobo à Wati affiche depuis fin mars 2023 un taux de réalisation de 78,93% 3 ans après le début de sa construction au nord d'Abidjan. Financée à 174 millions d'euros par la BAD et d'autres partenaires, ce premier projet hydroélectrique à financement privé en Afrique de l'Ouest doit fournir de l'électricité à 100 000 ménages. La centrale veut aussi créer des emplois et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 109 000 tonnes de CO2 par an. La compagnie kényane d'électricité Ketraco et la BAD viennent d'organiser à Nairobi un atelier sur la nouvelle loi relative au partenariat public-privé et sur l'industrie de l'énergie. Promulguée en 2021, la loi veut accroître la participation du secteur privé au financement, à la construction, au développement, à l'exploitation ou à l'entretien de projets d'infrastructure ou de développement. Pour terminer, le FMI a approuvé la deuxième et dernière revue du programme suivi des Comores. Les principales priorités de l'archipel restent l'augmentation des recettes fiscales pour soutenir l'investissement dans le capital humain, stabiliser le secteur financier pour améliorer la location du crédit, minimiser les risques budgétaires et renforcer la gouvernance pour réduire la corruption.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Handball pour commencer et nous prenons la direction de Bamako.
Oui Mohamedou, nous parlons du tournoi Challenge Trophée de handball filles cadets et juniors de la zone 2 de l'Afrique. La Guinée rafle les deux trophées. C'était hier dimanche dans la capitale malienne après une compétition de 5 jours qui a regroupé 9 pays. Sur place à Bamako, notre correspondant Siaka Traoré.
D'abord en cadet, la Guinée a battu en finale le Sénégal sur le score de 23 à 21. Fatou Keïta est la capitaine.
C'était pas facile du tout au début, mais on est resté soudés.
Si le début du match a été difficile, tout est rentré dans l'ordre au cours des 20 dernières minutes, reconnaît le coach Ibrahima Diallo des cadettes filles de la Guinée-Conakry.
Les consignes et les appuis qu'on leur faisait, ça leur donnait la motivation, l'envie.
Malgré la défaite, le coach du Sénégal n'est pas déçu. Sangaré Issoufa.
C'est leur première compétition internationale. Elles ont maîtrisé le match jusqu'à la 45e minute.
Mondialiste et 4e africain en junior filles, il fallait respecter ses statuts. Mieux, c'est un groupe qui se connaît, ayant joué ensemble plusieurs fois. Remporter le trophée n'est donc pas un hasard. Selon Camara Lansana, coach des juniors filles de la Guinée-Conakry, qui s'est imposé face au Sénégal 40 à 19.
Le projet de jeu qu'on a mis en place, elles ont respecté à la lettre et voici le résultat. Et c'est la performance qui a fait gagner.
Le Mali, pays hôte, s'est contenté des 7e et 5e places respectivement en cadet et en junior. Une performance saluée néanmoins par le président de la Fédération malienne de handball, qui s'est par ailleurs réjoui du fair play qui a régné durant toute la compétition. Des enseignements ont été tirés. Colonel Cheikh Tunkara.
Nous sommes en train de préparer la relève. Nous sommes déjà candidats à organiser d'autres tournois africains.
Il faut rappeler qu'ils étaient 9 pays à prendre part à ces tournois de Bamako. Il s'agit du Mali, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone, du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Basketball, ici en NBA, Golden State égalise contre Sacramento.
Les Warriors reviennent à 2 victoires partout contre les Kings au premier tour des playoffs et Minnesota obtient un sursis. Bagassi Koura.
Oui, Golden State l'a emporté de justesse 126 à 125. Le maître à jouer des champions en titre, Stephen Curry, a mené les Warriors avec 32 points afin de recoller aux Kings dans une opposition très serrée à l'ouest. De son côté, Minnesota a échappé au sweep, entendez la défaite 4-0. En battant à domicile Denver 114 à 106, qui mène désormais 3-1 Les Timberwolves auront néanmoins fort à faire à Denver pour le match 5 demain mardi. Les New York Knicks, vainqueurs des Cleveland Cavaliers 102-93 et Boston qui a battu Atlanta 129-121 ont porté leur avance à 3-1 dans leurs séries respectives. En cas de victoire dans l'Ohio mercredi, New York passerait le premier tour de la phase finale pour la première fois depuis 2013.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Soudan, militaires et paramilitaires continuent à s'affronter. Au 10e jour des combats, l'on dénombre déjà plusieurs centaines de morts selon des organisations humanitaires et internationales. Plusieurs pays évacuent leurs ressortissants, laissant redouter le pire. Pour faire le point de la situation sur place, Eric Manirakiza a joint le journaliste Salah Mohamed El Hassan Ousmane.
À en croire les apparitions, il me semble que c'est moins intensive aujourd'hui. Il y a moins de frappes aériennes, mais il y avait plus de pertes humaines et matérielles parce que les armes utilisées dans ces frappes sont des armes qu'on peut dire très efficaces. C'est pas comme on voit. On parle d'une extension de la truce de 3 jours. Pour 10 jours, mais c'est-à-dire non respecté. Il y a 4 heures, il y avait une frappe aérienne dans mon quartier qui était très loin de cette terre jusqu'à maintenant, qui a détruit 3 maisons voisines et laissé une dizaine de blessés à l'hôpital, qu'on appelle l'hôpital turc, à 200 mètres de chez moi.
Et vous, vous vous trouvez où actuellement? C'est dans quel quartier?
Je suis dans un quartier qui s'appelle Kalakla, au sud de Khartoum, situé à 10 km du centre-ville, mais à 2 km seulement du camp de forces d'intervention rapide ou de soutien rapide dans la zone de Taïb al-Hasarab, qui est le camp le plus important de ce poste général Hamet, où il y avait son quartier général.
Est-ce que vous pouvez sortir de chez vous, par exemple, pour aller vous approvisionner?
Oui. Dans mon quartier, on peut sortir, mais à pied. Il n'y avait pas de transport, pas de voiture, pas de rachat. Il n'y a plus de moyens de transport. Alors, on peut sortir à pied, aller jusqu'au marché voisin, pour acheter. Et le marché, ça fonctionne, mais il y a une hausse de prix, une hausse infernale de prix de tout produit alimentaire et autres. Il y a des produits qui commencent à s'épuiser dans ou sur les étagères des magasins. Par exemple, des biscuits, tout de nourriture. Et on manque de plus en plus.
Dans quel quartier où on ne peut pas sortir aujourd'hui?
D'abord, tout centre-ville, downtown, comme disaient les amis anglais, le centre-ville et les quartiers voisins de ce centre-ville, Sahafa, Diabra, Al-Kawit, Khartoum Ouest, Khartoum Est, Khartoum Sud, toute la zone de la centre-ville. Et puis aussi la zone de Chambat, à Khartoum Nord, ville jumelle de Khartoum, où il y avait des frappes aériennes très sévères, tous les jours, tous les 9 jours, mais aujourd'hui aussi. À Omdurman aussi, c'est difficile de sortir de chez lui dans le centre de la ville d'Omdurman. Seulement dans les quartiers préférés, comme le mien, on peut sortir. Mais le centre-ville, et en fait, le centre-ville est ville morte. La plupart des gens ont quitté leur maison.
C'était le journaliste Salah Mohamed El Hassan Ousmane, joint par Eric Manirakiza. Alors que de plus en plus de pays évacuent leurs ressortissants, les citoyens des États-Unis, toujours bloqués dans ce pays, sont priés de continuer à s'abriter et surveiller les communications officielles américaines. Veronica Balderas Iglesias de la VOA examine les options envisagées pour apporter un soutien à ceux qui sont restés coincés au milieu des combats. Le récit et de Lionel Gaïma.
Quelques heures après que des diplomates des États-Unis et d'autres pays ont été évacués en toute sécurité, des images de forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo semblaient les montrer mobilisés près du complexe du palais présidentiel. La VOA ne peut pas encore vérifier les images de manière indépendante, mais des sources font état de violentes luttes intestines entre les FSR et les forces armées soudanaises. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé dimanche dans un tweet que le personnel diplomatique britannique avait quitté le pays. Les États-Unis évaluent actuellement comment soutenir des milliers de citoyens américains laissés sur place, a déclaré le colonel à la retraite Steve Gagnard à la chaîne ABC.
Le Pentagone a déclaré que du jour au lendemain, il pourrait peut-être penser à établir un couloir sûr entre Khartoum et Port-Soudan et que l'utilisation des drones permettrait vraisemblablement à la marine américaine d'amener des gens par la mer.
La majorité de civils américains encore au Soudan sont des Américains d'origine soudanaise travaillant dans des missions caritatives, a déclaré le sénateur démocrate Mark Warner lors de l'émission This Week, toujours sur ABC.
Il y a en fait un effort de l'ONU pour faire sortir les gens de Khartoum par voie terrestre. Et je sais que nous travaillons avec de nombreux partenaires internationaux, dans ce cas des partenaires du Moyen-Orient. Je crois même qu'on coopère avec la Chine et les Européens pour que l'on trouve un moyen sûr d'évacuer ces travailleurs humanitaires.
Pour le moment, ils devront continuer à s'abriter sur place, a ajouté Warner. Le monde ne peut pas oublier le besoin urgent de négocier un cessez-le-feu pour le bien du peuple soudanais, a déclaré l'analyste Rebecca Hamilton à la VOA via Skype.
Ce dont le Soudan a vraiment besoin, ce que le peuple soudanais réclame depuis longtemps, c'est un processus de paix véritablement inclusif qui va être difficile et désordonné et qui va prendre beaucoup de temps, mais cela vaut la peine de se battre pour arriver à une démocratie durable.
Dimanche, au Vatican, le pape François a demandé des prières pour le peuple soudanais.
Je renouvelle mon appel pour que la violence cesse au plus vite et que la voie du dialogue reprenne.
Le programme alimentaire mondial a déclaré ces derniers jours qu'un nombre impressionnant d'enfants se trouvait parmi les réfugiés fuyant le conflit et que leur besoin immédiat était de l'eau potable.
Au Togo, alors que des voix s'élèvent depuis quelque temps pour dénoncer la cherté des connexions Internet mobiles, les opérateurs de téléphonie proposent de nouvelles offres pour apaiser la grogne. Sur certaines tranches, les volumes de data passent du simple au double sans changement de prix. Le point depuis Lomé avec notre correspondant Kossi Woussou.
C'est au jeu de à qui offrira le plus de mégas aux consommateurs que se livrent les deux opérateurs de téléphonie mobile du Togo. Ces derniers jours, les nouvelles offres ont plus que doublé sur certaines tranches alors que les prix n'ont pas changé. Eric Tchawalassou est le directeur marketing d'une des sociétés de la place.
Pour les mêmes tarifs, vous voyez le volume de votre souscription augmenter. Par exemple, sur l'offre de 1000 francs qui était à 500 mégas, vous passez à 1 giga et valable 7 jours. Et vous avez l'offre également de 3000 francs qui était de 2,5 gigas valable 7 jours qui passe à 3 gigas valable 30 jours aujourd'hui.
Chez le concurrent, 1000 francs CFA génère 1,5 gigas valable 7 jours. Ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs.
Nous accueillons favorablement la nouvelle, donc c'est une joie pour nous. Nous avons jusqu'à 100% des forfaits et par rapport à la consommation, par rapport au prix aussi de souscription. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle.
La réaction de Fouedi Dounia, responsable de la communication de l'une des associations de défense des consommateurs, est plus mesurée.
Nous avons pris acte de cette offre à l'égard des consommateurs d'augmenter les capacités des data tout en maintenant toujours les anciens prix. Maintenant, nous sommes dans le wait and see. Nous attendons le retour des consommateurs qui auront à faire usage de cette nouvelle gamme de produits.
Yvette Emenefa Eklou, qui mène une campagne sur les réseaux sociaux pour une baisse drastique des coûts de connexion Internet au Togo, en veut plus.
L'achat des datas ici au Togo nous appauvrit et nous asphyxie. Nous voulons l'augmentation considérable des volumes data ainsi que le prolongement des dates de validité. Nous voulons un giga pour 500 francs avec une validité de 30 jours. C'est le minimum qu'on puisse demander, ce qui est vraiment très raisonnable compte tenu surtout de notre pouvoir d'achat.
Des voix s'élèvent aussi pour l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie pour que la concurrence joue pleinement son rôle au profit des consommateurs. Ce n'est pas l'avis de Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs du Togo.
Nous croyons en toute sécurité que ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs sociétés qui va permettre de nous offrir des services à moindre coût et de qualité. En revanche, une infrastructure mise en place pour que ces sociétés-là jouent vraiment pleinement le jeu de la concurrence. Et donc, même si c'est deux, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous jouerons notre rôle pour que ça devienne une réalité.
La qualité des services à moindre coût, avec seulement un ou deux opérateurs, c'est aussi le choix du gouvernement que revendique régulièrement la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Kossi Oussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Les législateurs américains se prononcent après que la Cour suprême a maintenu vendredi l'accès des femmes au mifepristone, une pilule pharmaceutique utilisée depuis longtemps pour les avortements et qui fait l'objet de plusieurs plaintes en justice. Cette décision de la Haute Cour a suspendu des restrictions sur cette pilule abortive décidée par des tribunaux inférieurs. Arash Arabassadi fait le point. Récit Jean-Roger Billon.
Le mifepristone, approuvé il y a près d'un quart de siècle par la Food and Drug Administration, la FDA, restera sur le marché pour l'instant. La Cour suprême a rejeté la décision d'un tribunal inférieur du Texas concernant la pilule qui, associée à un second médicament, le misoprostol, est utilisée dans plus de la moitié des avortements pratiqués dans le pays. Une action en justice visait ce médicament au motif que l'approbation du mifepristone par la FDA était entachée d'irrégularité. Cette affaire fait suite à l'arrêt de la Cour suprême, majoritairement conservatrice, qui, il y a près d'un an, a annulé l'arrêt Roe contre Wade, supprimant ainsi le droit constitutionnel des femmes à l'avortement et renvoyant la question aux États. Certains législateurs ont récemment appelé à des sanctions extrêmes pour ceux qui souhaitent avorter. Nancy Mace, parlementaire républicaine de Caroline du Sud, a déclaré à l'émission This Week d'ABC que certains membres de son parti sont du mauvais côté de cette question politiquement chargée.
Dans mon État, la Caroline du Sud, un petit, très petit groupe de législateurs a déposé un projet de loi visant à exécuter les femmes qui avortent et à donner plus de droits aux violeurs qu'aux femmes qui ont été violées. Ce n'est pas le bon message à envoyer en vue de la campagne de 2024. Nous allons perdre énormément si nous continuons sur la voie de l'extrémisme. La grande majorité des gens veulent des limites à la procréation. Ils veulent des exceptions pour le viol et l'inceste. Ils veulent que les femmes aient accès au contrôle des naissances.
La Cour suprême ayant annulé le droit à l'avortement au plan national, les assemblées législatives des États se sont attelées à la tâche. En Floride, à la suite d'un vote au Parlement, en catimini, le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé un projet de loi interdisant les avortements après 6 semaines. Pendant ce temps, le gouverneur démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a abrogé une interdiction de l'avortement datant de 1931, consolidant ainsi le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Et la décision du tribunal de première instance du Texas dans cette affaire intervient dans un contexte d'un jugement négatif du système judiciaire américain, selon un récent sondage Gallup. Le sénateur démocrate Mark Warner, dimanche dans l'émission This Week sur ABC.
La décision du juge au Texas était, à mon avis, insensée. L'idée de prendre un médicament qui a été utilisé en toute sécurité pendant plus de 2 décennies et d'en amoindrir la disponibilité, je pense franchement qu'il s'agit d'une question où les choix en matière de soins de santé des femmes doivent être faits par les femmes. Et l'idée que ce juge interfère de manière aussi radicale dans une procédure qui a fait ses preuves, franchement, cela ne concerne pas seulement les choix des femmes en matière de soins de santé, mais cela sape l'intégrité de notre processus de contrôle et des régulations. Et je pense que la Cour a eu raison, mais qui sait quelle sera sa décision finale?
Le droit à l'avortement s'invite sans conteste dans les thèmes majeurs de débat pour la campagne présidentielle de 2024. Le président Joe Biden, qui a fait l'éloge de la décision de la Cour suprême vendredi, a déclaré qu'il continuerait à faire pression pour que le droit à l'avortement devienne une loi.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Mfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.